Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et c'est vrai que nous avons déjà passé pas mal de temps dans cette épître aux Éphésiens, notamment en regardant à la doctrine de l'Église. Mais ce matin, ce n'est pas à la doctrine de l'Église que nous allons passer du temps. On va être quelque chose de plus pratique, hein, parce que l'épître de Paul aux Éphésiens, elle a cette belle particularité, c'est que elle est remplie de doctrine, mais elle est aussi remplie d'enseignements pratiques pour l'Église. Bien souvent, cette épître de Paul aux Éphésiens est considérée justement comme, on va dire, la quintessence, hein, de l'apôtre Paul, hein, ce qu'il a peut-être produit, hein, le summum, de ses lettres, parce qu'on y trouve justement ce riche enseignement théologique, mais également, des trésors de préceptes pratiques pour notre vie. Le point focal de cette épître, il est évident. Christ et son plan pour l'Église, pour son Église. Et on sait que Dieu, il a prévu bien plus pour le pécheur repentant que la rédemption, hein, de ses péchés. Il a prévu pour ses enfants une vie remplie de bénédictions, c'est vrai, mais ces bénédictions sont aussi liées à l'obéissance que ses enfants doivent, et de voir qu'il nous appelle à une vie qui soit conforme à sa sainteté, que nous ayons une vie spirituelle active, remplie, hein, de richesses. Et cet épître de Paul aux Éphésiens donc apporte tous ces éléments-là. Et ce matin, comme j'ai dit, nous allons regarder à une portion, hein, de cet épître au chapitre 4 et de voir un aspect pratique de la vie chrétienne. Et donc, on va lire Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 30. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 30. Voici donc ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et j'aimerais qu'on lise aussi quelques versets du chapitre 5, verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et donc, dans ces passages que nous venons de lire, il est évident que Paul exhorte les chrétiens à avoir une vie qui soit différente. Différente de ceux qui ne connaissent pas Christ. Différente, mais eh bien, de ceux qui vivent, eh bien, selon leur nature pécheresse. Nous devons être différents de par notre comportement, de par nos actions, mais aussi différents par nos paroles. Ce matin, l'un des cantiques que nous avons chanté pour exprimer notre louange à Dieu, disait que mes paroles lui soient agréables. Que mes paroles lui soient agréables. Alors c'est sûr que on le prend dans le sens, oui, que mes paroles de louange à Dieu lui soient agréables. Mais aussi en lisant ce passage, je me dis, est-ce que chacune de mes paroles Les autres jours où je suis seul, où je suis dans le monde, est-ce que toutes mes paroles lui sont agréables? Nous devrions chaque jour avoir des paroles qui soient agréables à Dieu. Mais nous faisons face à un problème. Un problème d'ailleurs que l'apôtre Jacques souligne. Hein. Il parle de la langue, il parle de ce fléau qu'est la langue. Et dans son épître au troisième chapitre, les versets 9 à 10, permettez-moi de les lire, il dit par la langue, hein, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et ce que Jacques souligne, c'est ben, ce à quoi font face de nombreux chrétiens. C'est-à-dire qu'on a cette tendance à essayer de vivre ces deux vies, de vivre selon ces deux natures, cette nature sainte que Dieu nous a accordée, mais cette nature pécheresse hein, que nous avons eue pendant des années avant notre conversion. Et nous cherchons souvent, trop souvent, peut-être, à être comme le monde, à vouloir se faire accepter par le monde. Mais autant Jacques, il nous dit, on ne peut pas de la même bouche louer Dieu et de la même bouche maudire. On ne peut pas non plus louer Dieu et de la même bouche avoir, comme Paul le dit, des paroles mauvaises, des propos grossiers, des paroles insensées ou équivoques. Je crois qu'il est important pour nous de nous rappeler de cela, que nos paroles doivent être constamment agréables à Dieu. Et nous sommes amenés donc à sanctifier nos paroles. Il m'est arrivé d'entendre de la bouche de chrétiens des paroles grossières. L'autre jour, bon, on a le plombier qui est venu pour essayer de réparer la fuite, et à peine arrivé, il a regardé, et puis, ploup, il y a un gros mot qui est sorti. Sincèrement, je n'attends pas moins quelque part de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur d'avoir un tel langage. Mais malheureusement, lorsque ces enfants emploient ce genre de langage, et parfois même à l'église, dans des conversations, emploient ce langage, est-ce qu'on peut dire que ces paroles sont agréables à Dieu? Sanctifions donc nos paroles. Et je crois qu'une des premières choses que nous devons nous rappeler, c'est que c'est par la connaissance que nous pouvons faire cela. Hein, dans le verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Hein, si du moins vous avez appris Christ, c'est-à-dire si du moins vous êtes vraiment, eh bien, des disciples de Christ, que vous êtes vraiment repentis de vos péchés, hein, que vous avez été rachetés, hein, par la grâce de Dieu, que vous êtes maintenant les enfants de l'Éternel, eh bien, vous n'avez pas appris Christ comme le monde peut connaître Christ. Le monde peut avoir une idée de qui est Christ, et ils ont toutes sortes d'idées, d'opinions sur qui est Christ. Mais nous, en tant que chrétiens bibliques, nous avons appris Christ. Et c'est cette connaissance qui va nous permettre d'être agréables à Dieu. Et avant de voir un peu plus en détail cela, j'aimerais juste aussi souligner le fait que les mots que nous employons, les mots que nous employons ont un sens. Et ils ont une valeur. Et ils ont une puissance également. Et parfois, connaître la valeur de ces mots est essentiel. Certains emploient des mots grossiers par habitude. Ils ont grandi dans un contexte ou dans la famille, voilà, on emploie ce genre de langage. D'autres, c'est par influence, parce qu'on est à l'école, parce qu'on est sur un lieu de travail, et d'autres personnes emploient des paroles grossières, hein, parfois comme des interjections aussi, dans des moments de stress ou de colère. Certains emploient un langage grossier parce que ça leur plaît. Parce que ça leur plaît d'être rebelles dans tous les points envers ce qu'on appelle la bienséance, et ils aiment employer un tel langage. Certains emploient des mots grossiers sans savoir qu'ils sont grossiers. Hein, je sais que quand on a les enfants qui rentrent de l'école et puis plop, il y a un mot qui sort. Oh, où t'as entendu ça? Ah ben c'est un tel, il a dit ça. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ben, pourquoi tu le dis? Je sais pas. Il peut arriver donc par ignorance, voilà, on dise les mots et on ne connaît pas la valeur de ces mots-là. Mais à partir du moment où nous avons connaissance de ce que sont ces mots, nous avons un choix à faire. Un choix, soit d'être agréable à Dieu dans nos paroles, soit le choix, bien, de suivre le monde dans cet aspect-là de notre vie. La valeur des mots est d'abord définie par leur origine, n'est-ce pas? On sait que, bon, j'aime bien quand les gens ils disent oui, le langage évolue, les paroles, les mots évoluent. Non, souvent ce qui arrive, c'est qu'il y a un mot qui a un sens, et au fil des années et des siècles, on lui donne un tout autre sens, où on dévalue la valeur de ce mot. Et c'est pour ça, souvent, dans les prédications, quand on va regarder à des mots, on va expliquer ces mots, on va chercher leur origine, expliquer ce que Paul ou un tel disait dans le grec par rapport à ces mots-là, pour qu'on puisse avoir toute la force et la notion de ces mots-là. Mais qu'est-ce qui fait? Je posais la question le jour à Damaris, et sa réponse, bon, elle a été, je crois, bah, ce qu'il fallait. Hein, qu'est-ce qui fait qu'une parole est mauvaise? Qu'est-ce qui fait qu'une parole soit grossière, insensée ou équivoque, comme Paul en parle dans ces deux passages d'Éphésiens 4 et d'Éphésiens 5? La réponse qu'elle m'a donnée, c'est que à partir du moment où c'est quelque chose qu'on sait que c'est dégradant, qui est lié à l'intimité, qui est lié à quelque chose qui n'a pas à être partagé en public, par exemple, c'est ce qui, selon elle, a été des mots grossiers. Mais regardons ce que Paul dit. Parce que les mots que Paul emploie ici, justement, ils sont pleins de sens. Au verset 29, par exemple, lorsque il est question ici de paroles mauvaises, le terme que Paul emploie en grec, c'est le mot sapros, qui veut dire corrompu, pourri, putréfié. Cela donne déjà un bon aperçu de la valeur des mots dont il est question ici. Qu'il n'y ait donc aucune parole qui sorte de notre bouche, qui soit des paroles corrompues, des paroles putrides, hein, putréfiées. Hein, l'image, hein, vous l'avez probablement déjà vue. Vous avez déjà vu peut-être un fruit, hein, qui a pourri dans votre panier, ou vous avez vu peut-être sur le bas de la route un animal mort et l'odeur qui s'en dégage à cause de la putréfaction. C'est quelque chose qui, normalement, hein, la réaction naturelle à la putréfaction, ça va être le dégoût, ça va être le rejet, n'est-ce pas? On n'aime pas être dans la présence d'une odeur qui soit mauvaise. Et Paul nous dit, voilà, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole qui ait cette odeur-là, une odeur de putréfaction. Il s'agit donc de paroles grossières, parfois qui sont employées pour blesser, pour insulter, oui, pour rabaisser une autre personne. Mais comme j'ai dit, parfois, il y a dans notre monde, on va dire, une sorte de, peut-être de compétition, hein, celui qui arrivera à sortir le mot le plus grossier, le plus vil, n'est-ce pas? Il y a une sorte de surenchère. Il y a, entre guillemets, des comédiens qui, pour eux, eh bien, être comique, c'est de parler de choses viles, c'est de parler avec des propos grossiers. Et parfois, on peut dire, ah tiens, ce qu'il a dit, c'est drôle, mais c'est tellement rempli de paroles grossières que ça détruit tout l'objectif de vouloir être quelque chose de drôle. Une parole grossière, comme Paul en parle ici, au chapitre 5 et verset 4, il emploie le terme aiskrontes, et là, on parle d'obscénité, de paroles immondes. Une parole grossière, elle est caractérisée par son obscénité, c'est-à-dire quelque chose qui est indécent, quelque chose qui est impudique. Et généralement, et ce, peu importe la culture, hein, et la langue, généralement, ces mots-là se rapportent à la sexualité ou aux matières fécales. Peu importe la culture ou la langue, on va retrouver cela. Et ce sont donc des paroles, oui, dégradantes, parce qu'elles exposent publiquement ce qui devrait rester privé, hein, comme la sexualité, hein, ou le fonctionnement digestif du corps humain. Ce ne sont pas de mauvaises choses. Dieu nous a créés ainsi. Mais la manière d'en parler, la manière de sortir ces choses qui normalement sont liées à l'intimité et de les jeter comme ça en public et d'une manière qui est dégradante, avec des paroles qui sont obscènes, Voilà ce que sont donc ces paroles grossières. L'autre mot que Paul emploie ensuite, pour parler de propos insensés, c'est le mot morologia. Et ce sont des propos qui, normalement, viendraient de paroles, de personnes qui sont intellectuellement déficientes. D'accord? Ce sont donc des paroles insensées. Un des mots qui est employé dans certaines versions pour traduire ce mot-là, et même dans le dictionnaire grec, il y a pour équivalent français le mot bavardage. Si, mais bavardage, oui, c'est des personnes qui parlent entre elles, hein, ou à l'école, on a toujours entendu le maître ou la maîtresse dire « Cessez vos bavardages !» Mais le mot bavardage, à l'origine, c'est lié à la notion déjà de baver, c'est-à-dire de répandre, c'est lié au commérage. C'est lié, hein, au fait de propager, hein, des choses, des paroles, des informations de manière indiscrète, c'est ce que Paul ici condamne. Il s'agit parfois donc de grossièreté, de propos insensés, hein, d'un langage ordurier aussi, qui n'a d'autre but que de donner cette impression de souillure. Et finalement, il y a un dernier mot que Paul emploie ici, et bien c'est le mot eutrapelia. C'est un mot qui est composé, hein, chaque fois que vous avez. Même dans les mots français, hein, beaucoup de mots français qui viennent du grec, hein, quand vous avez EU en début, ça vient du grec et ça veut dire quelque chose de bon à la base. Œil, en grec, c'est quelque chose de bon. Et l'autre mot ici qui est utilisé, c'est un mot qui est dérivé de quelque chose qui tourne en fait. L'idée ici, ce sont ces paroles à double sens. Ce sont ces propos qui peuvent paraître, on va dire, intelligents, parce qu'on arrive à retourner un mot pour lui faire donner un sens, mais un sens qui est lié justement à ce qui va être obscène, à ce qui va être de mauvais genre. Et donc ça véhicule l'idée de transformer rapidement quelque chose qui est dit ou qui est fait, aussi innocent soit-il, en quelque chose d'obscène ou de suggestif. Des paroles équivoques. C'est un discours qui va devenir ordurier, pas forcément clairement ordurier, mais qui va donner un sens ordurier à quelque chose qui était innocent à la base. Toutes ces formes de paroles ont une chose en commun. Elles proviennent du même type de cœur. Un cœur qui poursuit l'immoralité, un cœur pour qui ce qui est abject est tout à fait normal. Hein, c'est cette même les choses abjectes que Paul parle, notamment, hein, dans Éphésiens 5, hein, il parle de la débauche, de l'impureté, de la cupidité, des choses qui ne devraient même pas être nommées parmi nous. Ce sont les choses que ce genre de cœur recherche. Et comme j'ai dit, donc, les mots ont un sens, ont un poids, ont un message. Et puisque ces mots, hein, ils sont définis par leur origine, on ne peut pas juste prétexter que, ben, aujourd'hui, ce n'est pas grossier, ce n'est plus grossier. Ou parce que la culture a tellement employé ces mots que ce sont des mots qui sont innocents. L'origine des mots est importante. Et ce n'est pas, à mon sens, la culture qui va définir que ce mot il est bon ou mauvais, hein, c'est ce dont il parle à la base. Le monde, justement, a cette fâcheuse tendance à rendre médiocre le langage, de détourner le sens des mots, de banaliser la vulgarité. Et malheureusement, parce que c'est devenu banal, certains chrétiens emploient ce même langage, sans forcément réaliser ce que ces mots veulent dire vraiment. J'ai déjà entendu, bon, des chrétiens utiliser ce mot qu'on appelle le mot de Cambronne, le mot de cinq lettres, qui est lié aux matières fécales. J'ai déjà entendu des chrétiens qui utilisent le mot CON, Et aujourd'hui, les gens utilisent ce mot pour décrire quelqu'un qui est bête, qui est idiot. Hein, et beaucoup de gens le considèrent même plus comme étant un gros mot. D'accord? L'origine de ce mot vient du latin. C'est le mot cunus. Et le mot cunus en latin, c'est le mot fourreau. Et très vite, ce mot, il a été employé pour décrire les parties intimes d'une femme. Et pendant des siècles, ce mot a été employé, donc de manière dégradante, pour parler des femmes. Et pour une raison, c'est devenu un mot qui parle de quelqu'un d'idiot. Alors, si vous voulez, il y a peut-être un rapport que certains ont voulu faire entre justement le sexe de la femme et l'idiotie, hein, ce qui est vraiment sexiste, hein, si on veut parler comme on parle aujourd'hui, de dégrader la femme de cette manière-là. Voilà l'origine de ce mot-là. Alors, je pose la question, est-ce que c'est ce genre de mot que nous voulons employé et de véhiculer cette idée-là, même si les gens, pour eux, on parle de quelqu'un de bête, mais à l'origine, c'est un mot qui est vil, c'est un mot qui est dégradant. La connaissance que nous avons de Christ et de ce qu'il a accompli pour nous doit justement nous pousser à rejeter ce genre de langage-là. Parce que le christianisme, c'est pas juste, ça y est, je suis sauvé. Le christianisme, c'est que Dieu, par sa grâce, par sa parole, par son Esprit Saint, eh bien, va nous aider à changer. La conversion, c'est un point de départ. Le christianisme nous appelle à l'excellence de Christ. Nous appelle à ne plus être ce que nous étions autrefois, mais à devenir ce que Christ est. À partir du verset 17, justement, on a vu que Paul soulignait cette différence entre la vie chrétienne et la vie impie, entre celui qui connaît Christ et celui qui ne le connaît pas. Et connaître Christ, donc, ça implique des objectifs de vie qui soient fondés sur sa personne, sur sa sainteté, sur sa pureté, sur la vérité, sur l'amour. Et donc, celui qui connaît Christ est amené à changer. Et ici, notamment, donc, en matière de parole, il cite d'autres choses. Il parle de ne plus mentir. Il parle de ne plus voler, n'est-ce pas? Mais il parle aussi de ne plus employer de langage grossier, ne plus avoir des paroles mauvaises. Christ lui-même, quand il était amené à interagir avec des personnes pécheresses, et que ces personnes comprenaient qui il était, et ces personnes se repentaient, ou quand il guérissait quelqu'un, ou comme avec, par exemple, avec la femme adultère. Qu'est-ce que Christ lui a dit? Va et quoi? Ne pêche plus. Il n'a pas dit va, continue comme tu es. Non, va et ne pêche plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous connaissons Christ, nous devons avoir pour objectif de ne plus vivre selon le péché, ne plus avoir des choses dans notre vie qui caractérisent le péché. Et donc nous devrions avoir ce profond désir, justement, d'ôter de notre vie tout ce qui est contraire au Seigneur. Et en matière de parole, eh bien c'est lié aussi à notre état spirituel. Dans Luc chapitre 6, verset 45, le Seigneur dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc les choses que l'on va dire expriment ce que nous avons dans notre cœur. Et quand il y a des chrétiens qui emploient un langage grossier, qu'est-ce qu'ils manifestent? Ils manifestent que leur vie, finalement, ils ne l'ont pas consacrée à Christ. Ils ne recherchent pas la pureté, la sainteté. Ils ne recherchent pas à changer et à laisser Dieu le changer. La question, parce que certains vont dire, oui, mais nous sommes libres en Christ, n'est-ce pas? Il y a la liberté d'expression, n'est-ce pas, qui existe. Mais Paul nous dit aussi, ne faites pas de la liberté un prétexte, une excuse pour vivre selon la chair, selon le péché. Hein, la question n'est pas tant pourquoi nous ne devons pas employer de tels mots, mais la question c'est plutôt pourquoi voulez-vous employer de tels mots? Qu'est-ce qui vous motive à utiliser de tels mots? On l'a vu parfois, c'est parce que ce sont des habitudes. Mais pour certains, c'est une volonté de leur part d'afficher une telle souillure ouvertement par leurs paroles. Et donc, pour nous aider à changer cela, Paul, eh bien, il interpelle les chrétiens à partir du verset 20, déjà en disant, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais il nous dit que c'est en lui, en Christ, que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, la première chose, ça va être que par la connaissance de Christ, et puis, bon, se rappeler hein, que les mots ont un sens et de connaître ces mots. Mais deuxièmement, ça va être donc par le dépouillement. Le dépouillement de quoi? Il est clair en lisant ces passages que le pécheur est quelqu'un qui va vivre en conformité avec sa nature pécheresse. Hein, cette nature, elle est caractérisée par, verset 17, par la vanité de ses pensées, caractérisée par une compréhension obscurcie hein, des choses spirituelles. Il ne comprend pas les choses spirituelles. Hein, les gens vont dire, mais pourquoi ça, c'est un mauvais mot? Je comprends pas. Cette nature, elle est caractérisée au verset 18 par l'absence même de Dieu dans leur vie. Elle est caractérisée par l'ignorance, elle est caractérisée par l'abandon au péché. Ils vivent selon leur nature pécheresse et selon cette nature pécheresse, ils commettent toutes sortes de débauches, d'impuretés, etc. Et donc tout cela, bah oui, il n'y a rien de plus normal, entre guillemets, que quelqu'un qui vit selon la nature pécheresse emploie des mots qui soient grossiers, équivoques, insensés, etc., qui emploient un tel langage parce que c'est de sa nature pécheresse qu'il parle. C'est du cœur. Cependant, pour ceux qui ont appris Christ, pour ceux qui ont accepté sa grâce, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont compris donc l'évangile de Jésus-Christ, leur vie à partir de ce moment-là doit correspondre avec la nouvelle nature que Dieu a créée en lui. Et cette nature, elle est, oui, caractérisée, comme on l'a vu, par la connaissance de Christ. Elle est caractérisée par le fait de vouloir imiter Christ, par l'obéissance et de vouloir, dans chaque aspect de notre vie, eh bien, ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ. Cette nature, elle est caractérisée par des pensées spirituelles. Des pensées qui sont nourries par quoi? Par la parole de la vérité. Hein, parce que je crois que l'équation, bon, elle est assez simple et nous la comprenons bien. C'est plus de temps nous passons dans la parole et dans la présence de Dieu, plus nous sommes influencés par lui. Plus de temps nous passons dans le monde et les choses du monde et nous écoutons et nous regardons les choses du monde, plus nous serons influencés par cela. Et on sait que on n'a pas de choix parce que nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde en Christ, nous appartenons à Dieu. Mais voilà, nous sommes comme des étrangers sur cette terre. Mais nous avons aussi cette responsabilité de nous protéger. Et il y a des situations qu'on ne peut pas peut-être empêcher, mais il y a beaucoup de situations où on peut empêcher cette influence du monde. Mais la nature, caractérisée par la sanctification, cette nature spirituelle que Dieu a créée en nous, elle est caractérisée par la sainteté. C'est-à-dire l'abandon de tout ce qui est caractéristique de cette nature pécheresse. Hein, quand on parle de sainteté, c'est toujours ben, de tourner le dos au péché pour faire face à Dieu, pour aller vers lui. On ne va pas revenir hein, sur tout ce que Paul il a mentionné ici, mais ça inclut les mauvaises paroles, les paroles grossières, insensées et équivoques. Ce sont les choses que nous devons abandonner. La parole de Dieu nous dit que ce salut en Jésus-Christ donc a fait de nous de nouvelles créatures. Nous connaissons bien ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, avec cette nouvelle création que Dieu a fait en nous, il y a une nouvelle identité. Il y a une nouvelle vie à mener. Et il y a une transformation qui se produit. Il y a une transformation qui se produit de manière initiale au salut, mais une transformation que nous devons produire chaque jour également. Nous avons la responsabilité de nous débarrasser de toutes les pensées mauvaises, de toutes les paroles mauvaises, de toutes les activités hein, qui étaient alimentées par notre nature pécheresse. Parce que même en ayant créé cette nouvelle créature en nous, nous avons, si vous voulez, les reliquats, nous avons les habitudes, nous avons encore cette chair qui est là et qui nous attire vers le péché, et nous devons lutter contre cela, nous devons résister à cela. Hein, comprenez bien déjà aussi que le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas une question d'amélioration de la personne que nous étions. Non, c'est déjà, nous sommes de nouvelles créatures spirituelles. Et à partir de ce moment-là, l'évangile de Jésus-Christ donc a produit cette nouvelle nature, cette nouvelle vie, cette nouvelle identité avec de nouveaux objectifs. Et à partir de ce moment-là, c'est notre responsabilité maintenant, eh bien, de vivre en accord avec cette nouvelle identité. C'est un choix volontaire, un choix indispensable de notre part si nous voulons honorer Dieu, si nous voulons honorer la grâce qu'il nous a accordée de, comme Paul le dit, de nous dépouiller du vieil homme, de l'ancienne nature, d'abandonner ce qui nous caractérisait autrefois. Chapitre 5, verset 8, il nous dit ce qui nous caractérisait autrefois. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Okay? Et ça veut dire que nous ne devons plus être caractérisés par les ténèbres. Nous ne devons plus être caractérisés par le péché. Nous ne devons plus avoir dans notre comportement ou dans nos paroles les choses qui sont caractérisées par le péché. Au contraire, nous devons avoir une vie qui corresponde à celle de Christ. Et donc avec ce dépouillement, c'est déjà là aussi une bonne chose et un point de départ. Mais ce n'est pas tout. La troisième chose que nous voyons, nous la voyons au verset 23, au chapitre 4, verset 23, c'est que nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Bon, il y a le dépouillement, enlever hein, ce qui reste de cette ancienne nature, mais quelque part, de manière figurative, d'adopter entièrement cette nouvelle nature, de nous revêtir de ce qui caractérise cette nouvelle nature. Et la vie nouvelle en Christ, donc, elle est caractérisée par cette poursuite volontaire de la part du chrétien d'imiter Christ dans toute sa conduite. La vie chrétienne n'est pas un menu. La Bible n'est pas un menu. C'est pas comme quand vous allez au restaurant et vous choisissez ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, vous le prenez, ce qui ne vous plaît pas, vous le refusez. Hein, la vie chrétienne, c'est Christ. Christ dans son entièreté. Et la vie en Christ, elle est l'exact opposé hein, de cette vie caractérisée par le péché. Elle ne peut pas être un mélange des deux. Hein, rappelez-vous que le Seigneur, il avait déjà parlé du fait qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Hein, il parlait de cette relation que les hommes ont avec l'argent. Hein, et nul ne peut servir deux maîtres où il haïra l'un, il aimera l'autre. Hein, on s'attachera à l'un, on méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, hein, Mammon qui était la divinité liée à la richesse, l'argent. On ne peut pas servir les deux. Et comme Jacques l'a dit, la langue que nous avons, les paroles que nous possédons, on ne peut pas à la fois louer Dieu et en même temps maudire les hommes. On ne peut pas être agréable à Dieu en employant des paroles mauvaises, grossières et tout ce qui a trait à cela. Hein, l'ancienne nature, elle est égocentrique, elle est futile, mais cette nouvelle création que Dieu a accordée à ses enfants, cette nouvelle nature, c'est une nature qui est centrée sur Christ, sur son exemple. Et elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour notre vie. Hein, si nous voulons être victorieux dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, on ne peut pas négliger le fait qu'elle doit être fondée sur Christ et constamment de suivre l'exemple de Christ. Mais on ne peut pas faire cela et en même temps, eh bien, s'approprier le langage du monde, s'approprier les pratiques du monde et en disant, c'est pas grave. Ça ne peut pas être pas grave. Parce que c'est la raison pour laquelle Christ est mort et s'est sacrifié, c'est pour nos péchés, pour nous racheter de cela, pour que nous n'ayons plus à être esclaves du péché, mais que nous soyons rachetés par lui, inclus dans sa famille. Et donc, ne vous y trompez pas. Comprenez bien que la voie que Christ nous demande de suivre et celle que le péché cherche à nous faire suivre sont opposées, sont incompatibles. L'idée que certains prédicateurs avancent, selon laquelle que, un croyant n'a pas à abandonner ni rien changer dans sa vie lorsqu'il devient chrétien, c'est faux. Ce n'est pas biblique. La parole de Christ à la femme adultère, va et ne pêche plus. Une grâce est faite, mais change ta vie. Un chrétien qui ne cherche pas justement à abandonner, à se dépouiller du vieil homme, à ne pas être renouvelé dans l'esprit, dans son intelligence, qui ne cherche pas à progresser, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon l'esprit. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Hein, Paul en parle aux Galates, hein, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. Vous voulez abandonner la chair? Marchez selon l'esprit. Mais si vous cherchez à marcher selon l'esprit en gardant les choses de la chair, cette marche va devenir très vite infructueuse. Infructueuse. Et c'est là où les chrétiens, dans leur vie spirituelle, eh bien, galèrent. Parce qu'ils n'ont pas lâché prise à cette ancienne nature. Ils n'ont pas lâché prise de ces habitudes pécheresses. Et c'est un renouvellement qui doit être continuel. Alors vous avez compris que, à la base, au moment de la conversion, Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Il y a une sanctification initiale. Nous sommes devenus saints à ses yeux par la justice de Christ. Mais, constamment, il nous est dit, soyez saints comme je suis saint. Constamment, il nous est dit, sanctifiez-vous. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens au chapitre 4 et verset 1, il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de quoi? De marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est-à-dire qu'on doit progresser. On ne peut pas juste se limiter à ce que nous sommes actuellement, mais nous devons toujours chercher à progresser dans notre vie pour ressembler davantage à Christ. Et donc lorsqu'une personne devient chrétienne, Dieu renouvelle d'abord son esprit, lui donne cette capacité spirituelle de comprendre les choses spirituelles, une capacité de voir les choses morales d'une manière complètement nouvelle. Et ce renouvellement que Dieu a accompli, c'est un renouvellement que nous, nous sommes appelés à reconduire. Non pas qu'on se ressauve, mais on se maintient. On se maintient dans cette sainteté. Romains 12, verset 1 et 2, sont des passages que je cite souvent parce que c'est exactement ça dont il est question. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas comme le monde. Mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc à partir du moment où vous connaissez ce qui est bon, agréable et parfait, vous savez également ce qui n'est pas bon, est-ce qui est désagréable, est-ce qui est imparfait. Et là, on a ce choix à faire, de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et ce processus, ce n'est pas un accomplissement ponctuel, mais c'est une œuvre continuelle que nous devons accomplir dans notre vie avec l'aide de l'Esprit Saint, que nous nous soumettions donc à la volonté de Dieu. Mais ça commence par le fait que nous décidions, je ne veux plus marcher comme le monde. Je veux marcher selon l'Esprit. Alors, comment est-ce qu'on renouvelle son esprit? Dans le psaume 141, au verset 3, le psalmiste il dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est rechercher l'aide de Dieu dans cela. Si nous luttons avec le fait d'employer un langage grossier, d'avoir des paroles mauvaises, voilà une prière que vous pouvez vous-même apporter à Dieu. Dieu, aide-moi. Aide-moi à résister à la tentation de parler ainsi. Mets une garde sur ma bouche. Un veille sur la porte de mes lèvres. Et donc c'est par la prière, une prière persévérante, une prière où nous demandons l'aide de Dieu. Parce que nous savons que c'est ainsi qu'on va pouvoir justement avoir des pensées également qui soient en conformité avec la personne de Christ en recherchant l'aide de Dieu. Paul, il écrit également en Colossiens 3,16 que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. En vertu de la grâce. Je crois que peu importe la lutte spirituelle que nous avons et le péché que nous cherchons à ôter de notre vie, nous devons nous rappeler de la grâce de Dieu. Nous devons nous rappeler de ce que Christ a accompli. Nous devons chercher à remplacer nos pensées qui sont attachées à cette ancienne nature, à ce vieil homme, nous en débarrasser, nous dépouiller, mais aussi donc adopter de nouvelles pensées. Et comme Paul le dit aux Philippiens, hein, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, hein, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que avant que le gros mot y sorte, on l'a pensé. N'est-ce pas? Paul, il nous appelle également à imiter Christ, hein, dans toute notre conduite, d'être des imitateurs de Dieu. D'ailleurs, vous avez juste à regarder, chapitre 5, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? Devenez donc. Donc, c'est-à-dire que c'est lié à ce qu'il est en train de dire juste avant. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Ça va requérir de notre part que nous lâchions prise de nos péchés, que nous abandonnions ces choses, que nous abandonnions de tels propos, de tels langages, et que nous nous conformions à Christ. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plombier qui a dit un gros mot, ici en réparant le radiateur, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas choqué. Certains, on a déjà eu d'autres personnes venir ici et puis dire un gros mot et puis ils se rappellent du lieu où ils se trouvent. Oh, désolé. Mais ce n'est pas le lieu, hein, qui fait quoi que ce soit. C'est le fait qu'on sait que ce sont des paroles qui n'ont pas à provenir de la bouche de quelqu'un qui se dit disciple de Christ. Hein, imaginez que si on avait quelqu'un qui entrait en plein milieu du culte et qui se mettrait à proférer toutes sortes d'obscénités, oui, on serait choqué, on serait mal à l'aise parce qu'on est là en train de chercher à glorifier Dieu. Mais en quoi est-ce que ça, c'est différent d'un chrétien qui est appelé, dont le corps est appelé le temple de l'esprit, n'est-ce pas? Qu'un chrétien qui dise ce genre de propos. Et donc, afin d'être renouvelé dans notre esprit, nous devons cesser de le nourrir avec ce qui est corrompu. Il nous faut changer. Et je crois que ce qui nous interpelle aussi, c'est ce que Paul y dit au verset 30. N'attristez pas l'esprit. N'attristez pas. Il nous faut finalement, et permettez-moi juste de voir ces choses rapidement parce que le temps est passé vite, mais finalement, en abandonnant toutes ces choses, en n'ayant plus ces paroles-là, Paul il nous dit que nous devons aussi remplacer cela par de bonnes paroles, hein, le bon usage de nos paroles. Nos paroles doivent être pures, bienveillantes, vraies. Hein, c'est ce dont il parle au chapitre 4. Mais c'est aussi, au verset 29, une parole qui doit servir à communiquer une grâce. C'est pour l'édification, c'est pour l'encouragement. Hein, les paroles d'un chrétien doivent être bonnes pour l'édification. Notre discours doit nous aider tous à être édifiés, à nous construire spirituellement, d'être utiles, de nous encourager, de nous édifier donc. Est-ce que tout ce que nous disons doit être approprié en fonction des besoins du moment? Hein, il dit, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y a pas forcément besoin de dire une bonne parole. Okay? Je crois que parfois, certains, on se force à dire, il faut que je dise une bonne parole, il faut que je dise une bonne parole, et puis on finit par dire quelque chose, mais on sent tout de suite que, ben, tiens, c'était peut-être pas la chose à dire, hein, ou ça a pas eu l'effet que je pensais en le disant. Hein, mais il y a un temps pour toute chose. Et il y a des moments où, oui, nous avons besoin d'entendre des paroles édifiantes, d'autres moments, on peut avoir des conversations tout à fait banales. Mais ce que nous devons veiller, c'est que nous fassions un bon usage de nos paroles. Que tout ce que nous disons soit dit dans l'amour et dans la grâce, que toutes nos paroles soient toujours accompagnées de cette grâce, assaisonnées de sel, comme Paul en parle en Colossiens chapitre 4 et verset 6. C'est ce que nous devons chercher à faire. Hein, les femmes ont étudié cette question de la compassion. Et la compassion, c'est ça aussi. Hein, on a dit, c'est de se mettre à la place de l'autre, c'est chercher à ressentir ce que l'autre ressent pour pouvoir finalement dire les choses dont elle a besoin d'entendre aussi. Hein, d'être une grâce pour ces personnes. Que nous le fassions donc avec amour. Ces bonnes paroles dont il est question, ici, le terme que Paul emploie, c'est le mot avantageux. C'est quelque chose qui va avantager l'autre personne quand on le dit. C'est quelque chose qui va donc, encore une fois, l'édifier, l'encourager. Et puis au verset 4 du chapitre 5, et on va terminer avec ça, nos paroles, comme on l'a dit au début de cette prédication, elles doivent être agréables à Dieu, glorifier Dieu. Hein, Éphésiens 5,4, il dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. À la bienséance, hein, c'est que si ça choque et gêne les gens qui sont autour de vous quand vous dites ces choses-là, toutes ces choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt quoi? Des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quoi? C'est une manière de glorifier Dieu. Hein, c'est une manière d'élever Dieu, de le remercier pour ses œuvres dans notre vie. Hein, ça dénote justement l'intérêt que le chrétien, il porte aux autres. Quand nous sommes animés à rechercher, à dire des bonnes paroles pour les autres, pas pour nous-mêmes, pour les autres, et pour glorifier Dieu, en étant focalisés sur cela, ça va nous aider aussi à rejeter, hein, les paroles grossières, les mauvaises paroles, les paroles insensées, les paroles équivoques. Tout comme on a chanté donc que mes paroles lui soient agréables. Il y a un autre chant aussi qu'on connaît bien, hein, reçoit favorablement, hein, basé sur le psaume 19, verset 15, reçoit favorablement les paroles de ma bouche. Alors si on a cet objectif de vie-là, que tout ce que je vais dire de ma bouche, je vais le faire pour glorifier Dieu, que Dieu puisse les accepter favorablement. Eh bien, ça va m'amener à faire les efforts pour contrôler cette langue, chercher à la dompter et à la maîtriser, et surtout nous amener à être renouvelés dans notre esprit, dans notre âme, à nous laisser guider, diriger par l'Esprit Saint, à rechercher la sainteté dans notre vie et à ne plus nous laisser attirer par ce qui est corrompu, putréfié, tout ce que le péché représente finalement. Donc j'espère que cette prédication ce matin vous a encouragé. Je sais que moi, ça m'a parlé à moi aussi. Hein, faut pas croire que, bon, parce que quelqu'un est pasteur, il est exempt de tout péché dans sa vie. Hein, et souvent, c'est vrai que dans la colère, on est... Nous sommes tous faillibles. Nous avons tous... Hein, ces restes de cette nature pécheresse que nous devons enlever, que nous devons nous dépouiller, mais surtout de revêtir Christ chaque jour, de le laisser nous changer à son image. Et ça requiert de la discipline, ça requiert des efforts. Mais c'est aussi pour ça que Dieu, il a donné l'Église, parce que c'est dans ce même chapitre où il parle de l'Église, n'est-ce pas? Pour le perfectionnement des saints. Et voilà les choses qu'il faut encore changer dans notre vie, pour nous perfectionner. Dieu a donné l'Église dans ce but-là. Et donc que notre assemblée, elle soit connue pour être une assemblée qui encourage et qui exhorte, qui emploie les bonnes paroles, une assemblée qui est composée de chrétiens qui ne se laissent pas happer par le péché, mais qui résistent, qui luttent, qui cherchent dans leur vie la sainteté et cherchent à honorer Christ dans tous les aspects de leur vie. On n'est pas parfait, on ne fait pas tout à la perfection dans ce que nous disons ou nous faisons, mais le fait de vouloir rechercher cela et de faire les efforts pour cela, ça honore Christ et nous suivons ce qu'il nous demande dans sa parole. Prions.